L'Explorateur Immobilier by Basil, une émission en coproduction avec Radio Immo.
Eh bien bonjour les amis, merci d'être avec nous, c'est la troisième édition. Je sais, Bérénice n'est pas là, mais elle sera là bientôt, puisqu'elle a attendu un heureux événement, il s'est produit, et donc elle sera avec nous, voilà, à partir du mois prochain, avec grand, grand plaisir. Voilà, donc j'ai le plaisir également de vous accompagner pour cette troisième édition de l'Explorateur Immobilier by Basil. Mon idée, c'est d'avoir la même moustache, vous voyez, je vais me mettre comme ça des moustaches, un joli chapeau. Voilà, accompagné pour cette édition d'Anthony Arnold. Bonjour Anthony, comment ça va ?
Bonjour Sylvain, ça va très bien, et toi ?
Voilà, responsable du développement pour Basil, merci d'être avec nous. Alors, on a conçu d'ailleurs cette émission avec toi Anthony, voilà, on le présente plus, voilà, sa légende l'a précédé, mais il est sur le plateau, il est le directeur général du Salon Rent. Bonjour Stéphane Scarella.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Très très bien.
Un grand monsieur de l'immobilier sur le plateau également, c'est Eric Calossi.
Bonjour.
Comment
Sylvain.
Ça va Eric ?
Très bien.
Ça c'est de la
merci.
Présentation. Voilà.
Absolument.
Merci responsable beaucoup. Commercial, Rent et international également. Vous participez, messieurs, au développement de ce rendez-vous incontournable de la PropTech, mais pas que, c'est aussi des innovations sociales, technologiques, structurelles, à tous les niveaux, toute forme d'innovation a droit de cité au Rent. Parce que souvent on réduit la PropTech uniquement à de la tech, ce n'est pas que de la tech, c'est aussi une façon, une nouvelle façon d'appréhender les métiers. On peut dire d'ailleurs que ce salon est devenu en quelques années, je vais vous donner la parole tout de suite Stéphane, mais au préalable j'aimerais avoir votre avis Anthony. Quand on a construit cette émission, tu as souhaité que ce soit vraiment orienté sur la tech et sur le salon Rent, pourquoi ?
En fait, tout ça, le point de départ, c'était mon travail d'aller rencontrer les professionnels de l'immobilier. Et durant toute cette année, aux côtés de Basil, je me suis rendu compte que les professionnels de l'immobilier étaient dans cette attente d'avoir de nouvelles solutions, de nouveaux moyens de concrétiser leurs objectifs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je tenais à avoir sur le plateau donc Eric et Stéphane en tant que représentants et donc directeurs du Salon Rent. Ça faisait sens. Eux qui ont au quotidien des échanges avec tous les professionnels de l'immobilier, peu importe l'activité, il y a tellement d'activités, mais en tout cas ça faisait sens d'avoir leur avis, d'avoir leur point de vue, surtout qu'on était dans une année qui était assez compliquée. Avec tout un tas de problématiques et de changements qu'on connaît bien. Et donc voilà, c'est pour ça que je tenais à les avoir aujourd'hui avec nous.
Merci beaucoup Anthony. Effectivement, Stéphane, donc, je le disais précédemment, on peut dire que le Salon Rent aujourd'hui s'est installé définitivement dans le paysage. Mm-hmm. Il est même contracyclique, puisqu'il fonctionne même quand, aujourd'hui, la PropTech, je prends juste l'année 2023, il y a à peu près 35 à presque 40% des entreprises qui se sont créées qui ont arrêter leur activité. Alors, c'est intéressant, puisque justement, on aurait pu dire que le Rent avait le sens d'exister, puisqu'il a été créé un peu plus de 10 ans maintenant.
2014.
On aurait pu dire qu'il était porté par un marché cyclique haussier, hein, puisqu'on a rasé gratis pendant à peu près 15 ans. Et que dès qu'on est dans un mode contracyclique d'un point de vue économique, surtout le logement qui est très durement touché, on aurait pu dire oui, le Rent a moins d'impact. C'est pas du tout le cas. Au contraire, bien au contraire, il a jamais connu un si fort développement durant ces deux dernières années. J'aimerais bien, si tu veux bien Stéphane, que tu nous expliques pourquoi finalement dans l'ADN du Rent, il y a à la fois, si tu veux, cet équilibre de la PropTech qui fait émerger des nouvelles solutions, et tu es toujours à l'affût, bien évidemment, mais aussi d'être dans une forme d'agora digitale, physique, où tout le monde se rencontre.
C'est le double effet qui se coule. C'est, paradoxalement, l'an dernier, on fait notre meilleure édition, best ever, sur tous les critères. Oui. Et c'est l'année la plus difficile.
En audience ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu dire qu'il y a moins de monde, parce que c'est plus dur, etc. Pas du tout.
Non. C'était un des questionnements. Et paradoxalement, on a eu l'illustration que plus c'est compliqué pour le marché, que ce soit dans la promotion, que ce soit dans la distribution de l'immobilier, peu importe, ou dans la construction, où c'est très très difficile, plus c'est compliqué, plus les professionnels ont besoin de solutions pour s'en sortir le plus vite possible. Ce qui est assez logique, en fait. Donc, on a cette chance-là. Quand ça va bien, ils veulent s'inspirer, ils veulent s'ouvrir les chakras, voir ce qui peut arriver, etc., etc. Regarder ce qui se passe à l'international aussi. Quand ça va moins bien, on se recentre, mais on a besoin de solutions pour sortir plus vite de la crise. Donc, on bénéficie de ça. Et c'est vrai que tu parlais d'Agora, presque malgré nous, puisque notre ADN, c'était l'innovation, avec un très fort regard à l'international, depuis 10 ans.
Et sur la tech,
bien évidemment.
Sûr. Ouais.
C'est devenu, au fil des ans, un vrai rendez-vous de l'industrie. Donc, c'est ce que j'appelle le double effet qui se coule. C'est-à-dire, ils viennent, les équipes viennent, les visiteurs, les 12 000 viennent pour s'inspirer. Quelles sont les dernières tendances? On entend, on va parler de choses qu'on n'a pas évoquées ailleurs. On va voir sur scène des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, etc. Donc, on se nourrit, on s'inspire.
Toute forme de solution.
La promesse étant qu'on reparte plus intelligent que quand on est arrivé. Et c'est aussi devenu, pour les principaux acteurs, les grands patrons de l'industrie, un rendez-vous de networking très important où ils ont plaisir à se retrouver, à partager, à échanger. L'innovation ne se résumant pas simplement à l'innovation technologique, ils sont aussi là pour prendre la mesure des dernières innovations sociales, environnementales, d'usage. Voilà, c'est ça l'équation.
Combien de personnes sont en audience globale sur, parce que 2023, ça a été le carton.
On a fait 12 000
énorme,
visiteurs.
Énorme.
Physique, hein.
Moi, j'ai connu 4 000, hein.
Ah bah moi, j'ai connu 2014, ouais. 400.
Ouais.
C'est-à-dire, il y avait première édition à la bourse.
Ouais, à la bourse, ouais.
J'étais là, Eric.
Ouais, 12 000, hein.
Ouais, j'étais exposant.
Hein. Juste à côté.
J'étais exposant, j'étais pré-visite, moi.
Ouais, ouais. Toi, tu y as cru, tu y as cru dès le départ, hein.
Si tu veux, c'est drôle parce que moi, quand j'étais donc le responsable de la société Prévisite, on avait un bureau aux États-Unis et il y avait une conférence.
Inman Connect.
Exactement. Qui était la première conférence sur l'innovation immobilière et ce doux mélange de conférences et d'exposants.
C'est vrai que Brad Inman a été d'abord un précurseur.
Bien sûr.
Et il a été d'une intelligence incroyable parce que la monétisation de ses conférences est incroyable ce qu'il a fait.
Absolument.
Et tout le monde y allait, hein, chaque année.
On s'est beaucoup nourri de ça.
Ah ben, complètement. 15 ans, Hervé Parent, il est venu à Inman en 2012, je crois, pour sa première conférence, et c'est ce qui l'a inspiré pour monter le salon Rent ensuite. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait une conférence sur la digitalisation du monde de l'immobilier et cette transformation, et un mélange donc de conférences et d'exposants, ce qui était assez nouveau, et qu'il a importé en France ensuite.
Je trouve que vous avez répondu à un réel besoin des gens. On le sait tous, quand on a au quotidien différentes problématiques, on veut des informations, on veut des solutions. Et vous avez créé l'endroit qui, pour moi, à mon sens, est devenu incontournable pour les professionnels de l'immobilier. C'est si on se dit, voilà, on a telle et telle problématique, on va se renseigner effectivement avec Internet, etc. Mais on se dit, on sait qu'il y a le Rent qui va pouvoir certainement, à 90%, nous apporter la solution, parce que on se dit que, voilà, comme vous l'avez dit, c'est international, donc des solutions des quatre coins du monde qui vont se retrouver là. Et nous, pour les professionnels, en tout cas, ça leur permet de...
Mais pour Basile, par exemple, typiquement, Basile, qui est aujourd'hui quand même un vrai carton en termes d'audience et de médias, on l'a vu, tu y vas, moi je trouve ça hyper ingénieux, donc je te l'ai toujours dit.
Oui, merci.
C'est, vous connaissez la solution, hein, Basile.
Bien sûr.
C'est hyper ingénieux, parce qu'en fait, elle ne s'oppose pas du tout aux autres portails. Elle complète absolument l'offre. D'ailleurs, je ferai les autres portails, je ferai des partenariats avec Basile. Mais, tant que c'est dit. Mais toi, quand tu y vas, toi, avec un groupe qui finalement a dimension européenne, hein, pour rappel que tu représentes aussi un groupe à dimension européenne, qu'est-ce que tu vas y chercher concrètement quand tu y vas?
Alors,
tu cherches de la technique, tu cherches à rencontrer quoi, des clients, des prospects, comment à sentir l'écosystème?
Alors honnêtement, c'est tout ça. On cherche bien évidemment à se développer, donc à rencontrer les professionnels qui pourraient ne pas nous connaître. Ce qu'il faut répéter, ça fait que depuis septembre 2023 qu'on est présent en France. Donc effectivement, on a été fondé et créé en Suisse. On est en France depuis 2023 et on a ouvert l'Espagne. Donc ça fait voilà sur ces trois pays, mais sur la France, quand moi je viens au Rent, j'ai rencontré des prospects, je rencontre aussi mes clients et je viens aussi trouver de nouvelles solutions. On reste des professionnels et on sait ce que c'est qu'être un professionnel. On doit suivre la tendance, on doit avancer. Bien évidemment, on a nos valeurs et notre concept qui est ce qu'il est et voilà. Mais on doit aussi se tenir au courant de ce qui se fait. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré différents partenaires sur le rent avec lesquels on a collaboré et qui viennent en complément de la solution Basile. Donc pour nous, c'est encore une fois, je le répète, hein, c'est pas du tout de la flatterie. C'est vraiment, voilà, c'est pour moi une évidence d'être au rent.
C'est hyper intéressant parce que Basile incarne l'entreprise taille européenne, qui est un succès hyper successful en Suisse par exemple, commence à bien performer en France. Et qui a dessiné, qui a identifié le Rennes comme étant le rendez-vous fléché. D'ailleurs, comme Anthony avait fléché d'ailleurs Radio Immo dans l'expression Midday. Je rappelle également que Anthony, tu nous accompagnes tous les samedis matins parce que tu es notre partenaire premium pour Sud Radio, pour Parlons Immo, auquel on s'adresse au grand public. J'ai deux questions à vous poser, messieurs, parce que vous êtes des professionnels.
Alors, avant, je me permets de te couper. Oui. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, donc moi, à la base, je ne suis même si j'ai eu un parcours dans l'immobilier, je n'ai pas été dans l'immobilier. Donc quand je suis arrivé, j'ai été très simple, très factuel. Bien évidemment, j'ai eu la chance d'avoir dans le ChatGPT qui existait. Mais voilà, je suis allé sur Google, je suis allé sur ChatGPT. Je lui ai dit, écoute, sors-moi les médias et les professionnels de l'immobilier où, pour le développement de Basile, où est-ce que je devais être? Et en fait, les noms sortent automatiquement. Donc, bien évidemment, il y a le rent, il y a Radio Immo. Et donc, je te l'ai dit que...
On est sorti sur ChatGPT, c'est pas mal.
Ouais, en fait, j'ai fait un listing, en tout cas pour les médias, radio, etc., voilà, j'ai sorti les podcasts les plus intéressants, etc. Et en fait, vous êtes arrivé en haut de la liste. Les salons, je suis sorti. Il y avait le salon Rent, le salon de la FNIM, voilà, et différents salons un peu partout en France. Et voilà. Et puis dans la presse du même acabit, il y avait le journal de l'agence, Immo Matin, etc. Donc voilà. À un moment donné, quand on fait du travail dans le bon sens et qu'on apporte des réponses et des solutions, mais ce que je dis, je ne l'invente pas. Tous les professionnels vont vous dire et les entrepreneurs vont vous le dire. Pour quand on répond à une problématique, ça en découle, tout simplement.
Anthony, c'est très juste. D'ailleurs, l'édition 2024, elle est dédiée à l'intelligence artificielle, donc sans oublier d'exercer. Et je suis très content puisque Stéphane m'a chargé d'une conférence dans laquelle on va être autocritique, parce que voilà, on en a vu des innovations hein, dans l'immobilier. On s'est tous dit, tiens, c'est la martingale, ça y est, ça va tout changer, au secours, etc.
Et c'est comme chaque
les,
année.
Tu vois, c'est comme les.
Chaque
tu sais,
année.
Les, tu te rappelles les agences qui devaient disparaître, fini les agences vitrées, etc., etc. Bon, donc j'aime beaucoup la maturité du Rennes qui dit, je suis aujourd'hui le centre, le campanile au cœur du village de la techno. Mais en même temps, j'ai toujours mon esprit critique et je suis capable de dire, attention, l'IA, attention. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'ai des questions pour vous, messieurs. Ça n'a échappé à personne. Le marché est en crise. Hein. Je vous donne les chiffres. Il y a environ 2200 entreprises de l'immobilier qui ont déposé leur bilan au cours de l'année 2023. On prend le premier semestre, par exemple, si on avait identifié post-Covid le nombre d'agences qui avaient disparu, c'était 27%. Elles avaient plus de 15 ans d'ancienneté. Hein. C'est des chiffres qui ont été. Je prends les faillites d'entreprises immobilières de type promoteur, aménageur et distributeur. On est passé de 56 à 103 dépôts de bilan faillites constatés entre 2023 et 2024. C'est plus 100%, 150% sur une année, et on prévoit un peu plus de 41% supplémentaire sur l'année 2025. Si on prend les constructeurs de maisons individuelles, il y en a 40% qui ont disparu. Voilà, le marché s'est complètement réduit. Il y a deux autres chiffres que je voudrais vous donner. C'est l'atterrissage 2024 au niveau des ventes. Bon, vous l'avez vu, on sera aux environs, grosso modo, entre 800 et 870. Et c'est une décroissance, en fait, de plus de 400 000 quasiment ventes sur moins de 3 ans. Grosso modo, mais si on prend les années glissantes là-dessus, donc professionnel de l'immobilier que tu es, Eric, avec le recul que tu as, comment tu vois le marché aujourd'hui? Qu'est-ce que tous ces chiffres-là te disent? Parce qu'on a deux solutions, soit on se dit, c'est chaud, soit on se dit, il y a peut-être un bouleversement, c'est propice à un changement, et on peut rebondir. Et on a des solutions.
Je crois qu'il va falloir se bouger un petit peu pour changer le paradigme. C'est vrai que les professionnels de l'immobilier souffrent énormément. Il y a moins de ventes. les taux d'intérêt étaient très hauts. Donc c'est vrai que je pense que c'est un effort commun qu'il faut réaliser pour faire en sorte que ça reparte. Alors là, avec la nomination du nouveau gouvernement, le développement du prêt à taux zéro, l'abaissement des taux d'emprunt en général, ça va peut-être aider.
On va en parler d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission, on va faire un focus un peu politique du logement, parce que ça aussi c'est important. Mais surtout au niveau de la... Toi qui es responsable commercial à l'international, comment tu les sens les clients, les groupes immobiliers, les distributeurs, comment tu vois aussi le fait que t'as connu le mercato des startups qui se créaient toutes les semaines.
Ouais.
Et là, des fonds d'investissement qui devenaient à peu près fous.
Ouais.
Parce qu'ils finançaient absolument tout et n'importe quoi.
On a quelques exemples.
Juste sur la base d'une feuille Excel. On a vu des très grandes entreprises dont on n'aurait pas imaginé qu'elles disparaissent. Hein, comme, voilà, je prends le cas de Bellman, hein, c'est récent. Mais il y a Mastéos, etc. Mastéos qui a été une formidable machine à incinérer des fonds propres. Voilà, plus de 60 millions d'euros hein, de fonds propres. Je ne veux pas reparler des agences de papa, c'est carrément le... Là, on va rire beaucoup.
Non, mais il y a pas mal d'exemples de sociétés qui ont levé énormément d'argent et puis qui ont presque disparu, ou alors pour certaines, qui ont totalement disparu, comme Mastéos. D'autres, je pense à Miro, par exemple, qui est encore là, mais qui essaye de se réinventer.
Moi, je me rappelle de...
Miro a levé 350 millions, quand même.
Je me rappelle de Stéphane Scarilla qui disait, à sa grande époque, Miro, la licorne de la profession, tu avais fait une réunion chez eux, un after work, tu te rappelles ?
C'est vrai.
C'était surréaliste.
Avec le ministre du numérique,
Cédric. Absolument.
Cédric Rond.
Absolument. C'était surréaliste. C'est incroyable.
Mais je voudrais juste dire quelque chose quand même, parce que c'est vrai qu'au Rent, on a des villages start-up pour environ 120 sociétés. Et la politique du Rent, c'est de ne pas renouveler cet espace start-up à une société d'une année sur l'autre. Et cette année...
Ah ouais,
ouais. Et donc cette année, on a encore 120 nouvelles start-up. Donc, ça reste...
Mais c'est énorme.
Un milieu extrêmement créatif en matière technologique, en matière de concept.
Et qu'est-ce qu'ils disent alors
T'as des sociétés nouvelles tous les jours qui apparaissent et qui viennent.
Et ils se sont fait financer, Stéphane
Pas forcément.
Mais parce qu'il faut revenir, et Eric a évidemment raison, il faut revenir à l'origine de pourquoi Rent existe. Rent, il est là pour mettre en perspective les startups, les fonds d'investissement et les industriels. Donc, l'industrie a compris, en tout cas ceux qui sont intelligents, qui créent des innovations et des startups, qu'il faut venir sur Rent pour rencontrer des fonds d'investissement, pour se faire financer.
Ils viennent toujours, hein, les fonds.
Ils viennent toujours.
Il y aura
plus de 15 fonds cette année encore.
Bien sûr qu'ils viennent. Ah oui, bien sûr.
Certains ont réduit leur ligne sur la PropTech, certains sont partis, mais ça, c'est la vie du business en général.
Oui.
Mais il reste quand même 120 startups, 15 fonds d'investissement, et il y a 400 exposants, donc autant d'industriels qui, à un moment donné, ont besoin d'innovation. Et les startups ont besoin des industriels pour déployer leur innovation. Tu es une startup aujourd'hui, si tu n'as pas un fonds qui te finance, c'est compliqué, mais si tu n'as pas un industriel pour déployer ton business model à grande échelle et assez vite, c'est encore plus compliqué. Notre mission à nous, c'est ça. Ce qui se passe après dans la vie de l'entreprise, tu citais un Mastéos, on peut citer un Miro qu'on a vu sommet puis mourir.
Ou même Matera qui a été assigné et qui a perdu un multiple reprise.
C'est la vie de l'entreprise après. Ça n'est plus notre mission à nous. Et pourquoi il y a un vivier, pour répondre à ta question,
très intéressant,
toujours permanent? C'est parce que, selon moi, il ne faut pas résumer l'innovation à l'innovation technologique. On a vu arriver, il y a quelques années, beaucoup d'innovations technologiques parce que la maturité du déploiement de la digitalisation dans l'immobilier était proche du néant.
Donc, pas résumer l'innovation à l'innovation technologique.
Surtout pas. Ouais. C'était vrai parce qu'à un moment donné, il y a 10 ans, il fallait digitaliser, il fallait dématérialiser à mort. Le segment de l'immobilier était vraiment en retard. Donc, forcément, tu avais l'innovation technologique. Aujourd'hui, l'an dernier, je prends un exemple. On a fait une édition sur les enjeux de décarbonation dans l'industrie immobilière. Moins de carbone, plus d'idées. Plus d'idées, c'est quoi? C'est des startups qui viennent avec des innovations sur le DPE, sur la rénovation énergétique, etc., etc. On peut citer des exemples. Cette année, donc émulation. Tu vois ? Émulation parce qu'il y a un enjeu très fort dans l'immobilier environnemental. Et là, émulation, beaucoup de start-up, donc on remet une pièce dans la machine. Cette année, l'intelligence artificielle dans tous ses états. On ne parle que d'intelligence artificielle. Où, comment, pourquoi faire ? Faut-il y avoir confiance, pas confiance ? Remettre l'humain au centre ? Je peux décliner à l'infini. Qu'est-ce qui se passe ? Re-émulation. Et tu vois arriver je ne sais combien de start-up avec des solutions d'intelligence artificielle. Pour nous, c'est un effet d'aubaine. Pour l'industrie, c'est enfin de mettre le miroir sur ce qu'il se passe vraiment. C'est aussi, comme disait Sylvain tout à l'heure, l'occasion d'être critique et de dire l'intelligence artificielle dans tous ses états, ça veut dire oui, dans bien des cas, quel est le service que ça propose ? ChatGPT, pas ChatGPT. Est-ce qu'on passe d'un moteur de recherche à un moteur de résultats ? C'est exact. Est-ce que Google vit sa troisième révolution ? C'est eux qui le disent. Et pour autant, remettre de la confiance, remettre le professionnel au cœur du dispositif IA ou pas IA. Voilà, on va aborder tous ces sujets. Donc, il faut bien comprendre que nous, on surfe finalement sur l'humeur du moment et sur ce qui se passe dans la vraie vie. On parle moins de décarbonation, à tort. On parle que d'IA. Très bien. Nous, on va faire en sorte que la caisse de résonance soit la plus grande possible.
Pour finir, c'est très juste. Et je voulais juste revenir sur la première partie de la réponse, sur le pôle start-up. Parce que nous, en fait, on est passé par là. C'est-à-dire que c'est 2024, c'est notre troisième édition Rent. La première édition, donc, était en 2022.
Grossis chaque année.
C'est ça. C'est qu'en fait, on est passé par le pôle start-up.
Bah, tu fais partie de ceux qui ont survécu.
C'est ça. Donc, on était en 2022 sur le pôle start-up. Parce qu'on était en Suisse. Et c'est de là que l'idée de se développer en France est venue. Parce que les professionnels qui sont en recherche de solutions sont venus nous dire « Ah, ce que vous proposez, c'est sympa. Vous êtes un portail. Vous êtes différent. Votre concept est à l'inverse des portails classiques qui existent. » Et c'est aussi le rôle des startups, donc de l'innovation. Et en fait, on s'est développé comme ça. Donc, on s'est développé en 2023. On est revenu au Rent 2023. Et aujourd'hui, on est ici. Et comme l'a dit Eric, ben voilà, sur chaque année, on a grossi en termes de stand. Et pour notre plus grand plaisir et le vôtre. Et voilà. Et puis, bien évidemment, on parle d'intelligence artificielle, etc. Mais la précédente émission qu'on a fait avec Bérénice, donc je fais un petit coucou quand même, c'était sur justement la place de l'homme dans l'immobilier. Parce que même si on est dans de l'intelligence artificielle, dans l'innovation, etc., avant tout, c'est une histoire d'homme. Quand je parle d'homme, on est d'accord qu'on parle d'hommes et femmes qui font le travail au quotidien. À un moment donné, même si moi, je développe un produit digital, je vais rencontrer des hommes. Aujourd'hui, je rencontre des hommes. Quand je vais voir des professionnels, c'est des hommes et des femmes. Quand il y a un compromis qui est signé, c'est en face d'un notaire. Même si c'est une signature digitale, elle est en face d'un notaire. Donc, à un moment donné, cette place de l'homme, elle est importante. Et à mon sens, elle n'est pas près de disparaître. Même si on a tout un tas d'innovations, qui facilite les process, et ça aussi, c'est le but de l'innovation. Mais la place de l'homme au cœur de l'immobilier. Et donc,
c'est ce que tu disais d'ailleurs avec les usages. Je vous propose qu'on passe dans la deuxième partie de l'émission, les amis. On se retrouve tout de suite.
L'explorateur immobilier by Basile sur Radio Immo.
Voilà, on reprend notre podcast, les amis, et d'ailleurs vous pouvez le télécharger comme vous le savez, comme d'habitude, sur les plateformes d'écoute. Il est en réécoute également sur l'application de Radio Immo, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. Alors, un contexte difficile pour les professionnels de l'immobilier, à l'instar d'une nouvelle politique du logement. Il n'a échappé à personne que début juin 2024, à la suite des élections européennes, qui a été un désastre absolu sur le plan politique pour notre ami président de la République Emmanuel Macron, lequel s'est fendu d'une dissolution extrêmement rapide, ce qui a provoqué un raz-de-marée parlementaire avec une nouvelle Assemblée nationale qui a été désignée. Dans cette Assemblée nationale, bien évidemment, aucune majorité n'a été dégagée, plutôt des majorités relatives. Revenons-nous finalement à l'exemple de la 4e République par un fonctionnement par consensus ou avec le risque, à chaque présentation d'un projet de loi, de dépôt d'une motion de censure. Pendant plus de 50 jours, nous avons entendu un gouvernement absolument phénoménal. Hein, c'est la première fois que c'est arrivé en France qu'on ait attendu aussi longtemps. avec une Assemblée nationale qui ne ressemble pas exactement à l'électorat qui a mené et qui a voté. C'est un autre débat. Valérie Létard a été nommée ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Alors, il faut savoir qui est Valérie Létard. Hein. Valérie Létard, c'est une personne qui a été députée, ensuite qui a été, par le biais des grands électeurs, désignée et élue sénatrice dans le Valenciennois, dans le Nord, sénatrice du Nord. Elle a travaillé avec Jean-Louis Borloo de façon très étroite. C'est elle qui a requalifié notamment le bassin valenciennois avec la reconversion notamment des friches industrielles et notamment elle a piloté les projets de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qu'on appelle clairement l'ANRU. Donc il y a eu deux formes d'ANRU qui ont été l'ANRU. Je vous rappelle que dans le cadre du Grenelle de l'environnement dans les années 90, il y a eu un formidable mouvement de requalification de rénovation urbaine. Il y a eu 6 points qui ont été développés dans le discours de politique générale par Michel Barnier, lesquels ont été repris par Valérie Létard, en attendant le projet de loi de finances qui est sorti, que vous avez vu et que vous avez relu, bien évidemment, puisque dans ce projet de loi de finances, les amis, est prévu un certain nombre de dispositifs sur l'immobilier. Je vous ai rappelé tout à l'heure, pour faire court là-dessus, je vous ai rappelé tout à l'heure les difficultés que partage l'industrie immobilière dans toutes ses aspérités, de la distribution des produits à la fabrique de l'aménagement du territoire. Puisque bien évidemment, avant de vendre un appartement, encore faut-il qu'il soit construit. Qu'il soit construit soit dans le neuf, mais aussi dans l'ancien, et la maison individuelle, je rappelle, qu'elle est plébiscitée par 87% des Français. Les Français veulent habiter dans une maison, qu'on se le dise, avec un morceau de jardin, avec une terrasse, avec un peu de commun agréable, ouvert, on peut les comprendre. Première question que je vous pose, Valérie Létard, Stéphane Scarella, nommée...
Est-ce qu'elle nommée, vient au RENT?
Est-ce qu'elle va venir au RENT? Certains, oui, elle viendra au RENT. D'ailleurs, il est possible... Non. Que, avec toi d'ailleurs, on délocalise le grand jury de la presse immobilière.
On y travaille.
Parce que nous avons réuni toute la presse immobilière. Je l'ai interviewé la semaine dernière au congrès de l'UNIS qui a eu lieu, vous le savez, à Rennes. Une ville magnifique qui a été complètement requalifiée. Un petit clin d'œil à Nathalie Appéré, la maire de Rennes, qui a fait vraiment un boulot remarquable. Elle a dit finalement que dans le projet de loi de finances, à l'instar d'une économie globale que doit faire l'État, je rappelle que l'État doit économiser aujourd'hui 40 milliards d'euros sur le budget, ce que nous avons vu, Stéphane, c'est l'annonce du prêt à taux zéro, étendu à tout le territoire. A priori, il s'appliquerait dans le projet de loi de finances à tous les logements. On a encore deux, trois incertitudes entre les maisons individuelles, notamment, c'est ça, c'est un vrai sujet, c'est pas clair. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'ancien comme le neuf est éligible au prêt à taux zéro, avec bien évidemment les conditions de ressources, sauf que le prêt à taux zéro tel qu'il est exprimé, c'est ni plus ni moins que le prêt à taux zéro qui existait en 2023.
C'est ça.
En dehors de cela, on a vu qu'il n'y avait pas une évolution majeure. Est-ce que quelle réaction tu as, justement, sur cette politique? On sait que finalement, on ne veut pas devoir compter réellement sur une politique budgétaire de l'État parce qu'il n'y a plus d'argent, notamment l'amortissement, par exemple, le statut du bailleur privé, mais qu'a priori, quand même, on a un gouvernement un peu plus souple pour l'appui sur les normes. Dernier point, si tu veux bien, c'est la dérogation sur le calendrier de rénovation énergétique.
Alors, de ma fenêtre, parce que je ne suis pas le mieux placé pour faire des commentaires sur la politique du logement, mais néanmoins, d'abord, je me félicite de la nomination de la nouvelle ministre du Logement, qui est une professionnelle, pour le coup, des sujets immobiliers. Donc, on peut considérer qu'on en face à nous et que les professionnels ont face à eux quelqu'un qui sait de quoi ils parlent. Ce n'est pas pour autant que vous avez les moyens de votre politique ou de vos inspirations. Donc, c'est ça qui va jouer maintenant. Alors, on travaille, tu l'as dit, Sylvain, on travaille au fait qu'elle soit présente sur Rennes. C'est important que la ministre du Logement ou le ministre du Logement, comme les années précédentes, viennent rencontrer les professionnels. Et Rennes, pour ça, est le meilleur endroit. De la même manière que Claire Chappaz est attendue au nom du numérique, par exemple. Ça, c'est très important. Pour répondre à la question, structurellement, il paraît évident que ça suffira pas. Voilà. Donc, c'est pas le fait d'étendre un prêt à taux zéro qui existait déjà dans les mêmes conditions, etc.
Ça va relativiser un peu de primo-accédant.
C'est bien, mais ça va pas suffire, en fait. Ça va pas suffire. Et c'est surtout en termes de dynamique, je pense qu'il faut mettre un gros coup d'accélérateur, parce que aujourd'hui, en France, si on tire un trait en perspective sur les 5 ans qui viennent, il va falloir construire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de logements qu'on ne le fait pour ne serait-ce que répondre aux besoins des Français. Donc, il y a une double problématique, c'est comment je refinance les ménages, comment je refinance les primo-accédants, comment je fais revenir les investisseurs. Parce qu'on ne peut pas réduire la politique du logement aux primo-accédants uniquement. Je rappelle que les investisseurs représentaient un pourcentage considérable de ce qui se passait en termes de transactions dans ce pays. Aujourd'hui, ils ont disparu. Les promoteurs, aujourd'hui, ont un vrai sujet, c'est-à-dire qu'ils ne construisent plus, tu l'as dit tout à l'heure, mais surtout, ils ne commercialisent plus non plus, parce qu'il n'y a plus d'investisseurs. Ce qui représentait la moitié de, minimum de ce qu'ils vendaient.
Rien ne remplace, le, a priori,
les investisseurs
le
au bout de chaîne représentaient le premier bailleur, finalement, en France. C'était les privés. C'est vous et moi qui, par un dispositif fiscal, avions investi dans un appartement et on le louait. Bon, bah, y avait une famille qui avait la chance de pouvoir donc louer un appartement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, moi, je veux bien qu'on discute, et c'est très important de resolvabiliser les ménages, et notamment par le prêt au zéro étendu, et c'est une très bonne nouvelle. Il me semble que c'est un peu court et que ça ne suffira pas. Est-ce que la ministre aura les moyens d'aller plus loin? Est-ce qu'un dispositif pour relancer la promotion aussi doit arriver, doit être mis sur la table, à l'image de ce qu'on avait les années précédentes? Moi, je ne fais pas la politique de logement. Simplement, si on regarde de manière objective, on voit bien qu'on ne répond pas à toute l'équation. On va voir. C'est encore des arbitrages budgétaires. Ça va se décider dans les jours qui viennent. On va voir. J'ai peur que ça soit court.
Les annonces ne sont pas de nature. On le sait.
C'est pour ça que je dis c'est un peu court.
À donner des éléments budgétaires, puisque finalement, il n'y a pas d'argent. Donc finalement, ce que les professionnels disent, c'est dans la mesure où on nous fiche un peu la paix et qu'on laisse deux, trois choses. Alors, sur le calendrier de la rénovation énergétique, le fait qu'on déroge notamment sur les étiquettes G, en sachant que c'est un tiers du parc aujourd'hui étiquette G. C'est
pour ça que je disais que
plutôt favorable quand même.
Non, c'était au 1er janvier 2025.
Le 2025. Bah, ouais.
La question, c'est on a fait du DPE. Tout le monde voit ce que c'est le DPE. On a fait du DPE l'alpha et l'oméga de la politique immobilière de ce pays pendant 3 ans.
Oui, non. Bien sûr.
Bon, aujourd'hui, on nous dit.
Avec un calendrier.
Allez, bonsoir, messieurs, dames. Circulez, il n'y a rien à voir. Non, mais mesurer ce que ça représente quand même. Non, pendant 3 ans, on nous dit c'est l'alpha et l'oméga. On nous dit attention, il y a des parcs entiers qui vont disparaître.
On
encourage donc la rénovation énergétique. On met des dispositifs en place.
Qui va baisser d'un milliard d'euros en 2025.
Tu vois, donc on se dit ok, c'est important. Il y a une trajectoire de décarbonation, de rénovation énergétique. Il faut sortir du parc les passoires thermiques. Très audible. Formidable.
Oui, on est tous d'accord.
On est tous d'accord. Là, sous l'autel des économies pays, on rase tout. Enfin, c'est le sentiment que j'ai, citoyen lambda, quand je suis devant ma télé et que j'écoute ce qu'on propose. Je trouve ça complètement délirant. Okay ? Maintenant, tout le monde parle d'économie. Personne ne parle de croissance. Moi, c'est ça qui me choque. Encourage la croissance. Il faut les deux. Il faut faire des économies. Je parle de l'immobilier. Il faut faire des économies, mais il faut relancer la croissance. Donc, il faut absolument trouver des moyens de relancer la construction, de relancer la rénovation, etc., etc. Ça ne marchera que si les gens réachètent des appartements, relouent des appartements, des étudiants qui ont accès au logement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il faut les deux.
Et la loi,
l'économie sans la croissance.
Et la loi Lemeur, qui va être adoptée, qui permet d'aligner la fiscalité nue des baux longs et du saisonnier, c'est plutôt bonne nouvelle. En tout cas, les professionnels sont plutôt d'accord sur l'idée, parce qu'on arrivait à des situations absolument folles dans certaines régions de France où on trouvait que du Airbnb, saisonnier,
réguler,
et plus un logement.
Sylvain, réguler, ça a toujours du sens, pas le sujet. Encore une fois, c'est prendre pas le sujet par le, par le tout petit bout. Quoi.
Ok. Est-ce que tu as compris que ça ne viendra pas du budget?
J'ai compris qu'on ne parlait que d'économie, qu'il fallait trouver 60 milliards, 40 milliards d'économies et 20 milliards par les impôts.
Exactement.
Je trouve ça... Enfin, c'est pas optimiste, quoi. Et si on nous parlait un peu de croissance, je pense que ça contrebalancerait. Mais je vois aucun dispositif pour encourager éventuellement les investisseurs à revenir, ce qui ferait construire davantage, etc.
Et tout ça a un lien, d'ailleurs, avec ce que nous faisons au quotidien. Hein. Je veux dire, faire venir des investisseurs, créer de l'émulation, de la croissance, comme tu dis, c'est des créateurs d'entreprises. Vous en pensez quoi, Anthony?
Bien évidemment, mais... On en revient toujours à la même chose. À chaque fois qu'il y a un changement ou que ça devient dur, La croissance, ce qu'on ne parle pas aujourd'hui, elle va venir de l'innovation. Parce que c'est en face de problématiques qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui que ben voilà des gens vont être obligés de faire fonctionner leur ménage pour pouvoir
et de l'emploi
et de l'emploi, mais pour moi ça va de pair.
Après c'est difficile hein. Nous pour en revenir sur le rent deux secondes, c'est vrai qu'on a vu plein de nouveaux concepts émerger, notamment tout un tas de sociétés qui proposent par exemple des calculs de coûts de travaux de rénovation énergétique.
Mmh. Ou même d'acheter, de co-financer.
On a vu des sociétés qui proposent des contrats d'assurance en lieu et place, des dépôts de garantie pour faciliter la location. Donc il y a beaucoup d'idées. Mais après, en fonction des événements et de la politique du pays, notamment, par exemple, ces sociétés de rénovation énergétique, si la loi passe et que on n'est plus obligé au 1er janvier 2025 de passer de G à D pour pouvoir continuer à louer ces sociétés.
Non, mais les sociétés qui faisaient
ça
du
là, on
saisonnier.
On verra pas l'année prochaine.
Les sociétés qui ont basé leur modèle économique sur la différence fiscale, notamment sur l'abattement des 71%, qui était un non-sens fiscal. Vous êtes d'accord?
Bien sûr.
Puisque ça a asséché l'offre locative de milliers de Français, de millions de Français, étudiants, jeunes, actifs, etc. Et c'est un non-sens, bien évidemment, tu as absolument raison, de se dire que dans cette difficulté-là, encore une fois, c'est ce que Stéphane disait tout à l'heure, et d'ailleurs tu l'as redit très bien, l'innovation, c'est le moteur de la prospérité.
Mais, bah, de toute
la
façon,
croissance, tu as raison Stéphane, tu as raison Anthony, prospérité, sans innovation, il n'y a pas de croissance.
Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de création d'emplois, etc. Et on est obligé d'être dans cette phase-là. De toute façon, comme on le dit, hein, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a que des solutions.
Mais, alors, on va conclure l'émission sur, il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on passe à cette troisième partie très rapidement pour faire la conclusion avec toutes les solutions et notamment on va parler d'intelligence artificielle. Juste pour démystifier un petit peu le thème, on va pas vous donner toutes les réponses, que les réponses vous les trouverez au rent. Voilà.
Oui.
Voilà. L'idée c'est de faire du teasing comme il faut. On se retrouve tout de suite.
L'explorateur immobilier by Basile sur Radio Immo.
Voilà, réflexion, troisième et dernière partie de l'émission pour conclure, mise en place et la réflexion autour des outils innovants pour les professionnels de l'immobilier, l'intelligence artificielle, mythe ou réalité? Stéphane Scarella. On dit, alors, pour résumer, de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle? Quelle est la différence entre une intelligence artificielle générative et celle, par exemple, d'OpenAI ou de ChatGPT, etc. En sachant qu'il y a beaucoup de providers aujourd'hui de solutions d'intelligence artificielle. Et il y a eu beaucoup, cette année, en 2024, de création d'entreprises immobilières autour de l'intelligence artificielle. J'en ai retenu une, qui s'appelle Genius, qui s'occupe de travailler la productivité pour les syndics de copropriété.
Oui.
Et qui fonctionne plutôt pas mal.
Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, pour répondre à la question, mais on en parlera évidemment beaucoup sur Rennes, je ne vais pas tout dévoiler. D'abord, il y a une quarantaine de conférences, etc., dont une bonne partie sera dédiée à l'intelligence artificielle. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a quand même un paradigme qui est en train de changer autour des outils. Parce qu'il faut le voir comme ça, hein. C'est comment l'intelligence artificielle permet aux professionnels de l'immobilier d'être meilleurs. C'est toujours ça la finalité. Personne ne va remplacer l'agent immobilier, le promoteur, le constructeur, etc.
Et simplement aujourd'hui, tout le monde tripe sur l'intelligence artificielle en disant
c'est un formidable assistant,
un facilitateur
pour le professionnel. C'est un facilitateur. Et puis parce qu'encore une fois, on est passé dans un monde de consommation à un monde de suggestion.
Vous n'avez pas peur que la question que vous posez à l'intelligence artificielle, vous faites comme Wikipédia, vous pensez que c'est la vérité? Vous savez que Wikipédia se trompe une fois sur trois?
Mais bien sûr, d'ailleurs, quand vous faites ChatGPT, il vous le dit. Attention, non mais... les réponses n'engagent que moi.
Et vous savez pourquoi Wikipédia est faux une fois sur trois? Parce que ce sont les individus eux-mêmes qui nourrissent la base de données. Donc ça vous fait pas peur?
Et contrairement
Il s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit d'accepter le fait qu'il y a une technologie qui arrive à vitesse grand V, c'est un raz-de-marée, et qu'il faut absolument essayer d'en maîtriser les tenants et les aboutissants pour justement avoir cet œil critique et se dire jusqu'où ça peut m'être utile.
Ce que disait Anthony tout à l'heure, c'est-à-dire que l'homme derrière fera toujours le contrôle.
Quand tu utilises ChatGPT aujourd'hui, ça te dit, attention, les réponses que je vais vous donner n'engagent que moi. Déjà, tu as compris qu'il vaut mieux vérifier avant de balancer la réponse, mais personne ne le fait. Quand je dis on est dans un monde...
C'est vrai que personne ne le fait.
Mais il y a quand même un point important, je me permets de te couper sur ChatGPT, c'est que sur l'intelligence artificielle, c'est qu'il va prendre différentes sources d'informations pour donner une information, et en plus de ça, il va dire, attention, ces réponses n'engage que moi. Contrairement à un Wikipédia qui est, voilà, vous, moi, qui peuvent aller mettre des informations et je peux me tromper. Mais là, pour le coup, je ne dis pas que c'est la réalité, c'est juste à tous
non,
les
coups. Non, mais c'est pas une critique sur la réalité
de Wikipédia. Parce qu'il y a des choses formidables.
Wikipédia, c'est une vaste entreprise associative, je précise, qui permet en fait de développer de l'information. Mais le problème, c'est comment on travaille la modération.
C'est ça.
Et c'est vrai que moi, en tant que journaliste, c'est un vrai sujet. C'est un énorme sujet, puisqu'aujourd'hui, les journalistes, je vois très bien comment ils bossent. Ils font des requêtes, tu sais, sur Google, ou des requêtes, ou même sur notre... Nous, on a développé notre propre intelligence artificielle sur une des filiales du groupe. Je peux vous dire que c'est pas simple du tout, puisque on se dit, mais finalement, on gagne du temps, tu as raison, parce que ça va à la vitesse de la lumière, pour compiler un certain nombre d'informations de façon extrêmement pertinente. Comment on sait qu'on peut l'utiliser à bon escient? Puisque, comme tu l'as dit très justement, 9 fois sur 10, on vérifie pas parce qu'on n'a pas le temps.
Mais si on prend les choses avec un peu plus de hauteur sur la partie intelligence artificielle, c'est plus, encore une fois, l'usage, en tout cas c'est le prisme qu'on a choisi sur Rent, c'est comment les Françaises et les Français consomment l'immobilier aujourd'hui. Ils consomment l'immobilier aujourd'hui grâce aux outils qui sont à leur disposition. Quand tu as aujourd'hui une réalité qui est de dire, aujourd'hui on allait sur Google, on avait un résultat, clac, clac. Aujourd'hui, on passe à de la suggestion. Quand aujourd'hui, les jeunes primo-accédants qui ont 25 ans, 30 ans, que sais-je, qui sont tes enfants, tes cousins, ils consomment aujourd'hui avec de la recommandation. Il suffit de regarder du Netflix, du Spotify, du ce que tu veux. Aujourd'hui, tu dois t'adapter, si tu es professionnel de l'immobilier, à cet usage-là de recommandation.
Je me permets d'ajouter...
Donc, c'est ça à quoi sert aussi l'intelligence artificielle.
Me permet d'ajouter que Basile aussi, c'est le mode de fonctionnement de Basile. Et d'ailleurs, Basile a été inspiré de toutes ces applications, de toutes ces innovations-là, qui est dans la recommandation. C'est pour ça que quand on parle de portail immobilier...
Donnez-nous quelques chiffres justement sur Basile. Plus de 200 000 biens réunis sur l'application.
Alors ça, c'était les chiffres de la fois précédente. Aujourd'hui, on a plus de 500 000.
C'est énorme.
Alors c'est énorme.
Combien de téléchargements aujourd'hui?
On est à plus de 60 000 téléchargements en une année. Sur Basile. Alors, plus de 500 000, pourquoi? Et ça revient à tout ce qu'on a dit précédemment. C'est que les professionnels, aujourd'hui, sont en recherche de nouvelles solutions, de nouvelles façons d'aller toucher l'utilisateur et la personne qui est en recherche de biens immobiliers ou de concrétiser un projet. Bien évidemment, la baisse des taux a fait une accélération. Donc, toutes les personnes qui ont eu des projets, qui les ont mis en stand-by sur cette année 2024, aujourd'hui, voilà, elles sont enclin, en tout cas, on voit une accélération du nombre de recherches, du nombre de personnes qui viennent découvrir Basile et les biens qui peuvent
avoir. Est-ce que ça complète l'offre des autres portails également?
Bien évidemment.
C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre. Finalement, Basile s'intègre très bien dans un plan média global.
Alors moi, je crois de toute façon que le soleil brille pour tout le monde. Et moi-même, quand j'ai eu à chercher mon bien, mes biens, quand j'ai déménagé plusieurs fois. Je me suis pas arrêté à un seul portail. J'ai fait différents portails parce que, des fois, j'ai pas trouvé ce qui me correspondait, ce qui m'allait. Parfois, c'était compliqué, d'autres étaient plus simples. Bon, chacun a ses différences. Effectivement, nous, on est un nouveau portail. Et nous, notre fonctionnement, notre concept de base est complètement différent des portails. Donc, on est un portail, mais complètement différent, tout simplement, parce que notre prisme, c'est déjà une application, et au-delà de ça, c'est la recommandation, c'est-à-dire que on dit souvent que nous sommes le Tinder de l'immobilier, et ça, c'est ce que tu avais beaucoup aimé. Et
oui, mais en fait, parce qu'on peut...
parce qu'il y a le swipe, mais le swipe, bien évidemment...
Bien, pas bien.
Voilà, ça, j'aime pas, ou j'enregistre pour voir plus tard. Mais ça, on va dire, c'est le côté un petit peu gadget, mais pas seulement, c'est qu'au-delà de ça, il y a une réflexion de dire, je vais pas simplement chercher mon bien, c'est aussi le bien qui me correspond, qui vient à ma recherche. Tout simplement, et là, du coup, pour le coup, c'est le machine learning, l'intelligence artificielle et l'algorithme qui a été créé par nos techs, Donc l'équipe Thibaut Fouache, etc. Donc notre équipe là, qui est le CTO de Basile, hein, qui a développé ce concept, qui fait que le bien en lui-même va chercher la bonne personne. Et là, on est sur de la recommandation. Et on sait en général que les gens ont toujours une fourchette de plus 10%, moins 10% pour trouver un bien. Et encore une fois, on est dans de la recommandation. C'est ça, en fait, on va vraiment faire matcher le bien avec la personne. C'est notre côté un petit peu...
C'est très ingénieux hein, comme dispositif. Il va falloir qu'on puisse conclure, voilà, notre émission. Je vous propose un petit jeu pour terminer, ça vous va? Vous êtes d'accord?
Qu'est-ce qu'on gagne?
Hein,
voilà. Des places au rent.
Voilà, vous gagnez des places.
Allez, j'offre des places.
Alors déjà, avec nos amis de Basile, on va se retrouver au rent, hein, parce qu'on se retrouve au rent. On va faire quelques émissions en direct avec nos amis de Basile. Merci également de nous soutenir également dans le développement de notre activité, puisque bien évidemment les médias n'ont pas été non plus épargnés par les difficultés des opérateurs immobiliers. On va se retrouver donc le 6 et le 7 novembre pour le rent. Et je rappelle également qu'il y a pas mal d'événements notamment caritatifs qui vont avoir lieu. On va vous en parler de plus en plus. Ça va être le grand rendez-vous cette année. On bat des records d'audience. C'est quoi? Plus de 12 000? C'est quoi l'objectif?
J'espère.
L'objectif, c'est... d'abord, on est rempli en termes d'exposants. Donc ça, c'est la bonne nouvelle.
Combien d'exposants?
On va faire 400 quasiment.
C'est énorme.
385 là aujourd'hui.
Énorme, énorme.
C'est au moins aussi bien que l'année dernière, ce qui dans le contexte est quand même assez remarquable. Et après, en termes de visiteurs, on en a fait 12 000 quasi l'an dernier. Ouais, on va essayer de dépasser. Bien sûr.
Alors, dans les actualités, justement, pour le 6 au soir, nous allons faire ce qu'on appelle la night de l'immobilier, une soirée complètement dédiée à l'immobilier. Stéphane, on va à partir de 19h jusqu'à environ 21h, 22h. Nous allons délocaliser sur le Rent Channel. Merci également de la confiance du Rent pour la production du Rent Channel. Avec nos amis de Sud Radio, avec lesquels nous travaillons tous les samedis, parce que nous avons une émission. On va délocaliser avec Cécile de Minibus, les vraies voix, et on va célébrer justement cette nuit de l'immobilier dans laquelle on va également réunir toute la presse de l'écosystème professionnel pour faire un grand rendez-vous. Voilà. Alors, pour conclure cette émission, je vais vous demander à chacun, on va commencer par Eric, de me donner juste un mot, un adjectif, très spontanément qui vous vient à l'esprit, pour illustrer les propos qu'on a échangés aujourd'hui.
Créativité.
Ah, ça ne m'étonne pas du tout. Créativité. Pour Eric. Stéphane.
Essentiel.
Essentiel. Pas mal. Anthony.
Optimisme.
Optimisme. Ben écoutez, c'est simple. Merci. Il est essentiel d'avoir de l'optimisme pour pouvoir développer sa créativité, notamment dans l'immobilier.
Magnifique.
Sur rent. C'est toujours le
tout. Magnifique. T'as gagné, je t'ai pris une place. Non, c'est pour ça que c'est toi. C'est toi le patron.
On retrouve ton spectacle à quel endroit?
Je m'excuse. Alors, vous tournez dans toute l'heure.
J'ai tapé chez moi.
C'est ça, monsieur.
Mentaliste également, bravo.
Voilà, non, mais c'est intéressant. C'est que, vous savez, c'est comme au théâtre. Il faut soigner sa rentrée et sa sortie. Merci en tout cas, les amis.
Merci à tous.
Merci pour cette troisième édition de l'Explorateur Immobilier. By Basile, avec nos amis de Basile, qu'on retrouve bien sûr au Rennes. Est-ce que vous avez déjà le numéro du stand dans lequel vous êtes?
Alors, j'ai pas bien fait mes...
C'est pas grave,
B02.
On va le mettre. Bien évidemment, Jason, en technique, va nous mettre l'URL de Basile, puisque quand vous écouterez le podcast, les amis, allez sur l'application, et en plus, on peut les télécharger extrêmement facilement, ainsi que l'URL du Rent. Il y a encore des places, on peut venir?
Allez, oui.
Est-ce qu'on peut encore exposer?
Jusqu'à la fin de la semaine.
Voilà.
Confirme.
Voilà. Il y a encore un peu d'espace. On peut aller.
Six temps.
Ouais. Voilà.
Une information. Très bien. Si je peux me permettre, petite information. Vous pourrez retrouver donc Quentin Épinel, fondateur de Basile, qui est justement à une des conférences animées par nos amis d'Immo Matin.
Absolument.
Voilà. Donc ouais, c'est.
D'accord.
C'est important de le dire.
On va lui en lancer une autre la conférence que moi j'anime d'ailleurs aussi sur l'intelligence artificielle.
Eh bien, avec grand plaisir.
Si Monsieur Épinay souhaite y venir, il sera le bienvenu. Merci à toutes et à tous. On se retrouve bien évidemment sur Internet comme d'habitude avec nos
Merci
podcasts
beaucoup.
Et l'information.
Merci.
Et de toute façon physiquement, on sera avec vous le 6 et le 7 novembre au parc des Expositions Hall 6 pour le Rent édition 2024. Prenez soin de vous d'ici là.
L'Explorateur Immobilier by Basile, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli de radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.